Cette semaine, dans le fauteuil d'entretien avec un évêque, c'est Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, qui répond à nos questions. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Au programme de cet entretien, l'année par et pour les jeunes, on parlera aussi de ce qui touche l'Église universelle, on va dire en ce moment, avec les questions de pédophilie au sein de l'Église. Avant ça, on rentre de vacances. Vous êtes en pleine forme?
Oui, tout à fait. Voilà, j'ai pris du bon repos à la mer, à la campagne, à la montagne, voilà.
Cette nouvelle année commence avec plein de projets, Monseigneur Ulrich, notamment autour des jeunes, puisque cette année est dédiée aux jeunes. Elle sera faite par et pour les jeunes. En quelques mots, en quoi consiste cette année un peu spéciale pour les jeunes?
Évidemment, ce qui nous touche beaucoup, ce que le pape a invité ce synode à Rome au mois d'octobre, dans un mois donc, synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, entendant par là que chacun peut trouver sa propre vocation dans la vie du monde et de l'Église. Voilà. Et il s'intéresse aux jeunes, pas simplement aux jeunes catholiques, mais aux jeunes en général, et il espère que des jeunes qui ne seraient pas catholiques, qui ne sont pas catholiques, soient aussi capables de trouver leur chemin en réponse à quelque chose qui soit un appel pour eux. Voilà. D'où qu'ils viennent, cet appel, et que cet appel, ils l'identifient comme un appel de Dieu ou un appel de la vie sans pouvoir l'appeler un appel de Dieu. Voilà. Donc, cette circonstance, elle se joint beaucoup à notre propre réflexion à la suite du synode provincial, dans lequel nous avions marqué que les jeunes étaient pour nous une des priorités de l'action, et la route vers les jeunes est une route que doit suivre l'Église, et notre Église de Lille, comme celle d'Arras, comme celle de Cambrai, ont fait le pari que c'était un enjeu très fort. C'est ces deux circonstances qui font qu'il nous a paru extrêmement important de mettre un effort particulier pour aider des jeunes à se faire entendre.
Répondre présent, voilà. Ces jeunes.
Ah ben, il y en a un certain nombre qui répondent présent, qui sont heureux de se manifester.
Alors là, le risque, c'est que ce sont les jeunes catholiques, enfin le risque, qui sont au courant de cette proposition
nous,
de l'Église diocésaine.
Oui, bien sûr. C'est à nous à organiser des choses, à mettre sur pied des choses pour que soient rejoints d'autres jeunes que ceux qu'on voit simplement dans nos maisons, dans nos églises. Voilà. On propose aux paroisses de trouver chacune au moins une action qui les fasse sortir d'elles-mêmes en direction des jeunes, qui ne soient pas simplement les jeunes qu'elles connaissent déjà. Une action au cours de cette année. Si chaque paroisse, il y en a 108 dans le diocèse, invente au moins une action qui lui permet de se mettre un peu sur le parvis de la paroisse, et pas simplement à l'intérieur de l'Église.
Aller en périphérie, voilà. Finalement, aller, vous répondez à l'appel du pape en allant aussi vers les jeunes.
Voilà,
ils font partie de l'appel.
Aller à la sortie, aller à la sortie. On n'a pas forcément besoin, quand on voit la cathédrale à côté de ce studio, eh bien, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont aux abords de la cathédrale, qui sont peut-être prêts à faire une petite démarche, à y entrer, à voir ce qui se passe à l'intérieur, à se rendre compte, et qui, pour certains, ne sont jamais entrés dans une église. Et puis voilà, ils sont là sur le parvis, ils entrent à l'église et il se passe quelque chose parfois. Et il y a des rencontres possibles.
Le diocèse de Lille appelle donc les jeunes à sortir d'eux-mêmes aussi pour aller à la rencontre de l'église.
Les jeunes pour aller à la rencontre d'autres jeunes. Mmh. Et puis les adultes des paroisses à faire quelque chose pour que... Ben, ils ne soient pas simplement entre eux en se lamentant, en disant « les jeunes ne viennent pas à l'église ». Ben oui, mais nous, est-ce que nous allons vers?
Voilà.
Est-ce que nous allons vers? Les inviter, c'est une chose, mais être avec eux, c'est aussi extrêmement important. Pas forcément leur dire tout de suite « viens chez nous, j'ai quelque chose à te montrer ». Mais voilà, ben on est là ensemble, on peut se parler. Et si tu... voilà. Je pense que cette démarche qui consiste à marcher avec les autres est une démarche extrêmement importante. Et que j'espère bien que cette année va aider les catholiques à percevoir la nécessité de cette rencontre. Je suis bien sûr que des catholiques rencontrent des gens un peu éloignés, rencontrent des jeunes, etc. Mais parfois, ils ne mettent pas ça sur le compte d'une vraie et profonde rencontre quotidienne avec des gens.
On suivra cela évidemment de près. On parlera principalement aussi du synode des jeunes qui aura lieu à Rome au mois d'octobre. Monseigneur Ulrich, c'est un sujet très très lourd qui touche l'Église depuis plusieurs années maintenant, mais on a l'impression qu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Ça fait les gros titres très régulièrement, la pédophilie au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui en tant qu'évêque que il y a des marches à passer pour être entièrement transparent sur la question de la gestion de la pédophilie en France et dans le monde?
Je dis que même si nous ne sommes pas tellement, crus sur ce que nous avons fait, que nous avons entrepris quand même depuis 15 ou 18 ans un certain nombre de démarches qui ont changé notre regard sur ce phénomène. Voilà. Il y a 20 ans, 18 ans, au début que j'étais évêque, c'est Mgr Billet qui était le président de la conférence des évêques, et nous avons écrit un texte dans lequel nous parlions de cette double trahison que des prêtres commettaient quand ils ne respectaient pas des jeunes. D'abord, comme un homme devrait respecter, un adulte devrait respecter des jeunes, et deuxièmement, comme un prêtre qui enseigne le contraire de ce qu'il faisait. Voilà. On a parlé de cette double trahison. C'était un premier pas.
Ouais, ça vous met en colère, ça vous décourage, ça vous donne envie de faire davantage, ça vous met dans quelle posture toutes ces
Alors affaires, ensuite, ça c'était l'étape suivante, c'est qu'on a découvert qu'il fallait prendre des mesures extrêmement claires pour que quand on découvre quelqu'un qui est dans cette situation, on l'empêche de continuer à exercer son ministère, de sorte que, on ne peut pas tenir les gens en laisse, mais quand même, on met un coup d'arrêt au ministère. Alors, il y a ceux qui aussi passent devant la justice pénale française et qui...
Et ça, vous n'avez pas hésité à le faire.
Voilà, ça, j'ai pas hésité à le faire plusieurs fois. Afin de dire...
Mais qu'est-ce que vous dites en tant que pasteur d'un diocèse que c'est... pas irrémédiable, mais en tout cas qu'il y a encore bien d'autres choses à mettre en place. Et qu'est-ce qui parle au fond d'un cœur d'un homme d'église? C'est la colère,
bien sûr,
c'est la révolte.
C'est la troisième étape, c'est se laisser émouvoir par la parole des victimes. Voilà. Plus d'une fois, j'ai reçu des victimes, et certaines, de fait, on ne sait pas quoi faire pour apaiser leur douleur. On le sent. Il y a une vraie douleur qu'on n'arrive pas à apaiser. Et ça, parce qu'il y a quelque chose qui a été cassé dans leur existence par cet irrespect qu'on a eu à leur égard, donc qu'un adulte a eu à leur égard. Et donc ça, c'est tout à fait terrible. Et on ne peut pas, ça c'est, j'allais dire, c'est de l'ordre, peut-être que le mot que je vais dire n'est pas tout à fait juste, irréparable, c'est un peu de cette nature-là, c'est-à-dire que cette douleur, elle ne s'en va pas. Le pape a écrit ça l'autre jour dans sa lettre au peuple de Dieu. Nous avons constaté que cette douleur ne disparaît pas, voilà, et qu'elle peut accompagner, malheureusement, une vie entière. Et donc, la seule chose à faire, c'est d'accepter, nous, que des personnes continuent de se révolter là-devant. Et pour nous, c'est évidemment la source d'une révolte intérieure, en se disant « mais je n'arrive pas à faire quelque chose pour réparer cela ». Et je pense que c'est un peu inextinguible. Et que des personnes entendent que nous sommes conscients que ceci est d'une certaine façon un peu irréparable, je pense que c'est déjà beaucoup que ces personnes comprennent cela. La justice s'est exercée quand c'était encore possible. Et la justice, si elle ne peut pas s'exercer, nous pouvons quand même obliger quelqu'un à ne plus exercer le ministère, sachant qu'il n'a pas pu être jugé, mais que tout le monde sait, enfin on sait que c'est comme ça. Voilà, donc et ça, il faut que nous soyons capables de le faire, et nous essayons de le faire.
Les membres de l'Église catholique, il y a un certain nombre de demandes de débaptisation, d'apostasie. C'est le diocèse de Strasbourg qui a été mis en avant ces derniers temps sur une demande, semble-t-il, accrue de demande de débaptisation. C'est le cas sur le diocèse de Lille?
Mais oui, parce que dans tous les diocèses aujourd'hui, et je crois dans beaucoup de diocèses du monde et pas simplement en France, le sentiment que nous ne faisons rien, c'est un sentiment, c'est-à-dire qu'évidemment, tout ne se voit pas dans ce que nous faisons. Et puis, malheureusement, il y a des cas nouveaux qui arrivent, et malheureusement, il y a des cas très anciens qui ressurgissent. Voilà. Et donc, ça donne le sentiment que c'est sans fin. La situation n'est quand même pas tout à fait la même en France, où ce sont des unités, des prêtres, c'est toujours trop, que dans un certain nombre de pays où, manifestement, il y avait comme une espèce de système occulte qui laissaient faire cela. Voilà. Bon, je ne vais pas désigner ces pays, mais tout le monde le sait. Il y a de fait des pays où c'est quelque chose qui s'est pratiqué avec le quasi-consentement, enfin, de toute la société autour, des responsables.
Alors, l'Église australienne demande carrément le lever du secret de confession dès lors qu'il est question de pédophilie.
Oui, mais ça, c'est une question que nous avons bien réfléchi. Il ne faut pas se faire des nœuds dans la tête avec le secret de confession. Il y a un secret professionnel, ça existe. La loi française nous dit que si nous dénonçons au titre du secret professionnel, non pas au titre du secret de la confession, qui est, lui, intangible. Le secret professionnel, c'est quand j'apprends, non pas lié par le secret de la confession sacramentelle, mais c'est quand j'apprends, au titre de ma responsabilité, que quelqu'un a fait cela. Ça, je dois le dénoncer.
Responsabilité de prêtre, ça veut dire...
Oui, responsabilité.
Et accompagner aussi l'auteur de faits.
Oui, alors, dans le cas du secret de la confession, normalement, un prêtre doit dire à son pénitent: vous ne recevrez pas l'absolution tant que vous ne serez pas dénoncé. Donc ça, on ne rompt pas le secret de la confession, c'est le pénitent qui va le dire. Voilà. Et dans le cas du secret professionnel, j'apprends quelque chose, je dois dénoncer. On peut dire le secret professionnel, il est aussi couvert par la loi. Mais la loi dispose que quand quelqu'un, pour ne pas mettre en danger la vie d'autrui, rompt le secret professionnel, on ne pourra pas l'accuser de l'avoir rompu le secret professionnel parce qu'il voulait défendre la vie d'autrui. Voilà, il faut être bien clair là-dessus. C'est pas n'importe qui peut rompre le secret professionnel dans n'importe quelle circonstance. On ne pourra pas l'accuser si le fait de rompre le secret, c'était pour empêcher une violation du respect de la personne. Hein, voilà. Donc ça, c'est clair. Alors tout ça, c'est des chemins que nous avons faits, qui sont pour nous douloureux et difficiles. Nous passons, et puis nous avons mis au point, dans le diocèse de Lille, dans le diocèse d'Arras, dans le diocèse de Cambrai, une procédure. On peut, en regardant notre site, soit demander un entretien avec quelqu'un de l'Église, et notamment avec l'évêque. Et ensuite, on peut, si on le juge utile, on rappelle les numéros de téléphone des procureurs de la République dans tout le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Et troisièmement, on peut aller consulter à la cellule d'aide psychologique, etc., du CHU, du diocèse, de l'hôpital.
Mais en lien avec le diocèse.
Oui, parce que nous sommes en convention avec ce service de l'hôpital, ce service de l'hospitalisation publique. Nous sommes en lien, en convention. Premièrement, ce service organise des formations pour nous, dans les diocèses. Deuxièmement, ce service reçoit et des victimes et des gens qui se savent capables d'avoir agressé d'autres personnes.
On aura encore beaucoup de questions à vous poser, bien évidemment, Mgr Ulrich. Le temps nous presse malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine dans Entretien avec un évêque.